Comme les heureux retraités, dès votre entrée dans la vie active, pensez à assurer vos vieux jours chez Suno Assurance, qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Priorité Santé. Entre 100 et 140 millions de femmes, toujours en vie dans le monde, ont subi des mutilations génitales, selon les estimations de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Aujourd'hui encore, près de 3 millions de filles sont excisées chaque année, soit 6 chaque minute, malgré les campagnes de sensibilisation dans une trentaine de pays. En Afrique, notamment dans la Corne, au Moyen-Orient avec le Yémen et en Asie avec l'Indonésie. En Afrique, c'est en Somalie, à Djibouti, en Guinée, en Égypte, au Soudan, en Érythrée et au Mali que le pourcentage de filles victimes de mutilations génitales est le plus élevé, de 85 à 98%. Quelles conséquences entraînent ces mutilations génitales sur la santé des femmes? Comment faire reculer, voire disparaître ces pratiques barbares? Quels messages diffuser? Quels outils juridiques utiliser? Quelles perspectives offre la chirurgie réparatrice? À l'occasion de la Journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines, on va tenter de répondre à ces questions avec nos invités. Docteur Sarah Abramovitch, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgienne à la maternité André Grégoire à Montreuil, en région parisienne, spécialiste en chirurgie réparatrice de l'excision et des mutilations génitales féminines. Dans quelques instants, le docteur Bernard Marc devrait nous rejoindre. Il est médecin légiste, responsable de l'unité médico-judiciaire du centre hospitalier de Marne-la-Vallée. Et il est l'auteur d'un numéro spécial du journal de médecine légale et de droit médical consacré aux violences faites aux femmes aux éditions SK. Nous appellerons tout à l'heure le docteur Rada Hatem, gynécologue obstétricienne, médecin-chef à la maison des femmes de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, qui prend en charge les victimes de mutilations génitales. Si vous voulez poser des questions ou témoigner, un seul numéro, le 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Je vous propose d'ouvrir cette émission avec un témoignage très fort, celui d'une jeune fille de 19 ans, Hadja Idrissa Ba. Elle est étudiante et présidente fondatrice du club des jeunes filles leaders de Guinée. Elle avait 9 ans lorsqu'elle a été excisée. Raphaël Constant a rencontré Hadja Idrissa Ba lors de son passage à Paris.
Je me rappelle bien quand j'avais 8 ans, mes parents m'ont dit « Idi, on va t'amener pour les vacances cette année ». C'est une première fois, c'était exceptionnel parce que jamais dans ma vie, mes parents ne m'ont amené en vacances pour aller chez ma tante ou chez la famille. Et j'étais très contente, très innocente, surtout très vulnérable. Et j'étais avec ma cousine, on est allés ensemble, on a passé 3 semaines chez ma tante. Et je me rappelle du jour où on est allé chez cette vieille femme qui a vraiment utilisé... je peux dire sa sorcellerie sur nous, le fait de nous priver de ce droit et de nous retirer une partie de notre corps. Je me suis sentie en ce moment trahie d'un côté, mais de l'autre côté aussi, je ne savais pas, j'étais innocente, je ne savais pas que l'excision avait des conséquences. Lorsqu'on nous racontait que pour être jeune, pour être une femme, il faut passer par là, et juste après cela, on nous disait, les tantes nous disaient, maintenant vous êtes devenues des femmes. Donc après avoir été excisées, des cris par-ci, par-là, dans le salon. Et c'était pas facile du tout. Et quand je pense à ça, en fait, je tiens mon coup parce que c'est très traumatisant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore... connu toutes les conséquences de cette pratique parce que je suis encore jeune et non mariée. Et comme on le sait, la plupart des conséquences viennent après le mariage. Et là, l'une des plus grandes conséquences aujourd'hui dont je suis victime, c'est le traumatisme. Et dès qu'on me parle de l'excision, ça me vient toujours en tête le jour où on m'a posé sur cette table pour faire cet acte ignoble, cet acte qui n'a aucun sens, qui n'a rien à voir avec la religion, mais plutôt une tradition, une coutume qui est considérée comme un passage normal pour nous les jeunes filles.
10 ans après avoir été excisée, quels sont les traumatismes et les dangers de cette excision ?
Je ne peux pas connaître toutes les conséquences pour le moment parce que je n'ai pas d'abord eu un contact avec un homme. C'est-à-dire parce que lorsqu'on on regarde un peu les conséquences de l'excision, d'abord c'est la stérilité. Deuxièmement, c'est la difficulté d'accouchement. Des fois, il y a des infections. Et donc tout cela, c'est après le mariage en fait. Donc pour le moment, ce grand traumatisme, c'est lorsque je participe à des ateliers de formation où on nous parle en images des conséquences de l'excision, comment est-ce que les femmes le font sur les petites filles. Je vois cette lame qui est couchée, je vois ce bébé-là, je vois ces jeunes filles qui sont en train de couler du sang. Donc franchement, c'est ce traumatisme-là en fait qui me choque souvent pour le moment, mais je souhaite que dans les années prochaines, que je ne sois pas encore victime des autres conséquences qui seront citées, telles que la stérilité et la difficulté d'accouchement.
La jeune Hadja Idrissa Ba, docteur Sarah Abramovitch, comment vous réagissez au témoignage de cette jeune fille qui a été victime d'excision ? Ces mots sont très forts, elle parle de trahison, de sentiments, donc de trahison, d'acte ignoble, le sang qui coule, le traumatisme. Est-ce que ce sont des mots qui reviennent souvent dans la bouche des patientes que vous rencontrez ?
Très souvent, c'est vraiment des mots récurrents chez les patientes. Je trouve que Madame Ba décrit très très bien la situation. Elle décrit aussi bien les différentes conséquences. C'est exactement des scènes que mes patientes ont toutes vécues, plus ou moins difficilement, avec plus ou moins de souvenirs. Mais c'est des histoires malheureusement étrangement similaires pour chacune.
Est-ce que l'on sait d'où vient et à quand remonte cette pratique ?
Alors on sait que l'excision c'est une pratique ancestrale, c'est-à-dire qu'on a retrouvé des momies égyptiennes excisées et infibulées, c'est-à-dire recousues. On sait également que toutes civilisations sont basées sur des mythes, et notamment au niveau de la Corne de l'Afrique, il y a beaucoup de mythes, comme le mythe d'Ogon ou d'autres mythes, qui expliquent que chaque être né hermaphrodite, et donc il faut enlever la partie féminine des hommes et la partie masculine des femmes, donc l'excision et la circoncision. Après, évidemment, ces mythes sont basés sur des histoires qu'on raconte et qui sont faux, mais tout a été construit là-dessus et reste aujourd'hui actif.
Parce que ce qui est étonnant, c'est que cette pratique de l'excision ou des mutilations génitales féminines, on la retrouve aussi bien chez les chrétiens que chez les musulmans et les animistes.
Oui, alors en fait, ces mutilations sexuelles en France, génitales, c'est le terme
en anglais
international. En France, on a bien insisté dans les groupes actifs pour que ce soit sexuel, parce que c'est vraiment privé de la sexualité plus que des organes génitaux. On sait que ça n'a rien à voir avec la religion. Beaucoup de personnes, et même des patientes que je vois, pensent que c'est dû à leur religion. Or, c'est totalement ethnique, l'excision. Par exemple, au Sénégal, il n'y a que entre guillemets, moins de 30% de femmes excisées, puisque l'ethnie majoritaire au Sénégal, ce sont les Wolofs, et les Wolofs n'excisent pas. Donc, en fait, ce n'est absolument pas une question de religion.
Docteur Abramovitch, on peut rappeler qu'il existe plusieurs catégories de mutilations sexuelles féminines ?
Tout à fait, il en existe 4 décrits. La première, c'est l'ablation du prépuce. La deuxième, c'est l'ablation du clitoris et des petites lèvres. La troisième, c'est l'infibulation, c'est-à-dire la suture des petites ou des grandes lèvres. Et la quatrième, c'est tout ce qui est inclassable. Donc que ce soit crime de guerre ou les plantes érosives ou tout ce qui peut être de l'ordre de la mutilation, sans que ce soit aussi bien défini que les premières.
Mais la pratique la plus répandue, c'est l'excision.
Alors, en fait, c'est pas tout à fait comme ça. En France, c'est l'excision, donc c'est-à-dire le type 2, l'ablation du clitoris et des petites lèvres. C'est une question de flux migratoire, parce qu'en Afrique de l'Ouest, la pratique la plus répandue dans les ethnies d'Afrique de l'Ouest, c'est le type 2. Donc en France, c'est la migration qu'on a, donc c'est des femmes maliennes, ivoiriennes, donc c'est des types 2. Mais par exemple, en Afrique de l'Est, c'est surtout des infibulations en Somalie, en Éthiopie, et c'est un flux migratoire qui va plus vers la Suisse ou ou la Suède, et eux sont plus face à des femmes présentant un type 3.
Et est-ce que c'est l'infibulation qui entraîne les conséquences les plus graves pour la santé de la femme ?
Les plus graves, probablement. Ça ne veut pas dire que l'excision, enfin le type 2 n'en présente pas, notamment parce qu'on se rend de plus en plus compte que dans les types 2, comme on coupe les petites lèvres s'accolent par cicatrisation, et donc ça fait ce qu'on appelle des pseudo-type 3, donc des pseudo-infibulations, qui ont les mêmes conséquences dramatiques chez les femmes, sur la santé des femmes, que l'infibulation.
Et l'infibulation, qu'est-ce qui se passe quand la petite fille ou la jeune fille se marie ?
Alors, même avant qu'elle se marie, c'est-à-dire que le principe de l'infibulation, c'est de fermer le vagin et donc...
De le coudre
les petites lèvres ou de coudre les grandes lèvres, plutôt les petites lèvres. Et du coup, de laisser un tout petit trou pour le passage du sang et des urines. Ce qui fait que les petites filles, d'abord, ont des douleurs atroces pendant les règles, puisque ça stagne, enfin les jeunes filles, et les petites filles même... Quand elles font pipi, l'urine stagne et il y a des conséquences rénales importantes du fait des infections urinaires à répétition d'une urine qui peut pas s'évacuer et ça remonte sur les reins. Après, quand elles se marient, il y a évidemment un problème pour la pénétration puisqu'il n'y a pas la place pour que le pénis puisse passer. Donc c'est des jeunes filles qui, le soir de leur nuit de noces, sont généralement ouvertes au couteau et en fonction des ethnies, plus ou moins recousu après les rapports. Je vous laisse imaginer la torture que c'est d'être ouvert au couteau sans anesthésie, évidemment.
Et parfois, on les ligote sur leur lit de noces pour qu'elles ne se débattent pas.
Alors, en fait, on les tient toujours parce que c'est une douleur insupportable et du coup, aucun être humain ne peut ne pas se défendre quand on lui fait ça. Donc, elles sont toujours, en général, ligotées ou tenues, ou par les matrones, ou par les autres, parce que la pénétration comme ça est impossible.
Donc ça, c'est pour l'infibulation. Quels sont les autres risques pour la santé ?
De l'infibulation ou de l'excision ?
De l'excision.
De l'excision, alors, il y a des risques d'ordre d'abord généraux, au moment de l'excision, du fait des saignements, du fait des infections, notamment par l'hépatite C, puisque la lame qui va couper une petite fille va couper toutes les autres petites filles. Il y a des risques, évidemment, de décès si l'hémorragie est trop importante, d'infections d'ordre septique. Et après, il y a des risques d'ordre médicaux, donc comme on a dit, avec les reins, avec les infections, puisque du coup, il y a des infections qui se mettent et donc une stérilité. Et il y a également des risques psychologiques, comme le disait très bien Madame Ba, il y a un traumatisme, hein, c'est un acte extrêmement traumatisant. Il y a des risques sexuels, on peut pas avoir une sexualité épanouie quand on a vécu ça, ou très difficilement en tout cas, et il y a des risques obstétricaux, les accouchements sont des accouchements difficiles.
On va écouter à nouveau Hadja Idrissaba, cette jeune Guinéenne de 19 ans, donc qui se bat pour que les petites filles dans son pays ne soient plus excisées comme elle-même l'a été. À la tête du club des jeunes filles leaders de Guinée, Hadja dénonce avec courage, dans la rue ou sur les réseaux sociaux, les mutilations génitales, les mariages précoces ou encore la violence domestique et conjugale dont les femmes sont victimes dans son pays.
Après avoir remarqué que les jeunes filles en Guinée faisaient face à beaucoup de menaces telles que les mutilations génitales féminines qui font de notre pays le deuxième après la Somalie, dont 96% des jeunes filles sont victimes d'excisions, je me suis dit qu'il est temps que nous jeunes filles en se lèvent. Parce qu'on a remarqué que le combat est toujours mené par les adultes et on le dit souvent, tout ce qui est fait pour nous, sans nous, se décide contre nous. Alors c'est pour cette raison, en tant que victime et en tant que propriétaire de notre corps, on s'est levé, on a créé ce club pour hausser la voix et dire non à toutes ces violences. Parce qu'on a remarqué que ces jeunes filles ne connaissent pas réellement leurs droits. Elles ne savent pas qu'elles ne doivent pas être excisées telles que moi je l'ai été. Elles ne savent pas qu'elles ne doivent pas être mariées très tôt avant l'âge de 18 ans. Mais de l'autre côté aussi, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on prenne le bâton de pèlerin afin de rappeler aux parents qu'ils ont des responsabilités envers nous. C'est-à-dire si nous sommes des jeunes filles qui ne considèrent pas notre féminité comme une faiblesse, mais qu'ils considèrent cette féminité comme une force pour la famille, que nous soyons comme les hommes en fait. Donc, il est important vraiment pour nous de rappeler à l'État guinéen, vous avez ratifié des conventions. Nous avons le code de l'enfant. Nous avons le code pénal qui est censé vraiment nous protéger, jeunes filles, contre toutes ces pratiques. Alors, si vous avez des cas, appliquez strictement la loi parce que nous avons remarqué qu'il y a l'impunité. L'excision est pratiquée partout, dans toutes les rues, dans, même à Conakry, en pleine ville. Tu vois les jeunes filles en boubou qui sont excisées, tout le monde voit et personne ne parle malgré que la loi existe. Donc c'est pour cette raison que nous nous sommes dit en tant que jeunes filles d'aller vers ces autorités, d'aller vers ses parents. Mais aussi, on n'oublie pas une entité très importante. Cette entité, c'est qui? C'est les leaders religieux et les leaders traditionnels. Nous les sensibilisons, nous les demandons, écoutez, faut pas qu'on se trahisse dans cette religion. Vous devez nous aider dans cette lutte. Vous devez parler à vos amis qui sont dans les différents villages, d'utiliser ce même débat dans les sermons afin de sensibiliser la communauté parce que vous êtes très bien écoutés. Donc, c'est un peu le combat que nous menons en Guinée pour mettre fin à l'excision.
Concrètement, sur le terrain, comment vous sensibilisez?
D'abord, dans les écoles, on passe avec les filles, mais aussi nous partons dans les ateliers de couture et les salons de coiffure où on rencontre beaucoup de jeunes filles dans les marchés. Nous sommes toutes là, nous qui parlons les différentes langues nationales, que ce soit le poulard, le malinké ou le soussou, on utilise ces langues pour vraiment véhiculer le message. Donc on essaye de créer un dialogue entre nous et les femmes. Mais aussi on n'oublie pas qu'il y a des familles qui n'aiment pas s'exprimer devant le public. Donc nous partons de porte à porte dans les familles pour parler avec les mamans et les papas pour les écouter et aussi les sensibiliser afin qu'ils puissent reprendre conscience de la gravité de cette pratique qui est néfaste pour la santé des jeunes filles. Comme on le dit, il vaut mieux prévenir que guérir.
Et alors justement, est-ce que vous avez l'impression que les choses bougent, que les mentalités changent et que les femmes, les parents, les familles, les religieux ou les chefs de village comprennent les dangers de l'excision sur la santé des jeunes filles?
Bon, jusque-là, vu que le taux n'a pas encore changé, on se dit que ça ne va pas du tout. Pour changer la mentalité des jeunes, parce que l'ancienne génération, c'est compliqué d'aborder ces sujets avec eux. Mais aujourd'hui, la difficulté de ce combat, c'est beaucoup plus les hommes. Les hommes aujourd'hui ont tendance à nous faire croire qu'ils connaissent mieux notre corps que nous. Et surtout, cette nouvelle génération qui est lettrée, qui a des smartphones, alors que on dit que l'avenir c'est nous, le présent c'est nous, si nous on ne parvient pas à changer, comment est-ce que nous pouvons dans les années prochaines, ou bien, mais aujourd'hui on remarque aussi qu'il y a la complicité en fait des docteurs en Guinée. Il y a des sages femmes qui sont en train de pratiquer cela dans les hôpitaux. Donc c'est pour cette raison ici, il est important que ça soit une lutte de tous les secteurs, que non seulement les autorités, le gouvernement et la société civile, que tout le monde se donne la main afin vraiment de mettre la complicité de côté et de pouvoir dénoncer et appliquer strictement les lois qui existent comme les autres pays l'ont fait. Mais surtout, assurer le suivi et évaluer le combat que nous sommes en train de mener. Là, on peut vraiment réussir à reculer le problème sur l'excision en Guinée.
Hadja Idrissa Ba au micro de Raphaël Constant. Il faut rappeler donc que le taux d'excision en Guinée est encore de 96%. Docteur Abramovitch, est-ce que vous êtes d'accord avec Hadja quand elle explique que la difficulté, selon elle, dans ce combat contre l'excision, vient des hommes? Parce que les ONG sur le terrain, que ce soit en Égypte ou au Mali par exemple, disent que ce sont les femmes qui restent le plus attachées à la tradition.
Alors, c'est assez partagé, c'est-à-dire qu'en effet, ce sont les femmes qui exécutent, qui excisent, ce sont les matrones, mais elles le font pour les hommes qui s'en détachent et qui disent que c'est une histoire de bonne femme, hein, entre guillemets, sauf qu'en fait, si c'était pas fait pour restreindre la sexualité des femmes vis-à-vis des hommes, il y aurait probablement plus d'excision. Donc oui, elle a raison. Je voulais aussi réagir sur ce qu'elle dit par rapport au risque pour les petites filles et au fait que ça se fasse encore. Hein. C'est encore très très pratiqué et notamment il faut faire très attention en France aux petites filles qui partent au pays pour les vacances. Excision, parlons-en, qui est l'association qui lutte beaucoup contre l'excision, a mené des campagnes, ce qu'elles appellent des campagnes. C'est-à-dire que si, ce qu'elle disait, hein, si on sait que des jeunes filles risquent d'être excisées, il faut prévenir. Et là, la campagne ado numéro 3 va commencer et c'est très très important.
Oh tata, fonika ya fama, Ta boniga ya fama. Tata boniga ya fama. Oh tata ya fama. Oka tata poa kamasarone fa Oka nani kamasarone fa Oka tata jeve kawakonkeneye Oka nani kamasarone fa Tata funiga ya fama Oh tata Ya fama o katata bua kama sarone fe o kaneni kama sarone fe o katata jebe kawa kugeleye o kaneni kama sarone fe kata uniga ya fama Tatako, kwale benele fe, Ameriki kalunana, kuye tatale fula. Tatako, kwale benele fe, kofaransi kalunana, kuye tatale fula. Tatako, kwale benele fe, Ameriki kalunana, kuye tatale fula.
Tata Tiken Jafakoli dans Priorité Santé. Nous sommes toujours avec le docteur Sarah Abramovitch pour parler de l'excision à l'occasion de la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations sexuelles féminines. On a beaucoup d'appels au standard. Salé Matou, bonjour.
Bonjour Chantal.
Salé Matou, vous nous appelez de Conakry, en Guinée, Conakry dont on parlait à l'instant avec Hadjaba Idrissa. Salé Matou, docteur Abramovitch, je vous écoute.
Ok, ce que mon problème est que j'ai été excisée quand j'étais petite. Et là, récemment, j'étais à l'hôpital avec un gynécologue. Je n'étais même pas partie pour ça, j'étais partie pour autre chose. Et là, quand il me consultait, il a fait rentrer son doigt dans mon vagin et ça me faisait très mal. Donc, je me suis dit, ah, même pendant les rapports aussi, c'est la même chose. Donc, je me suis dit de lui demander quoi, pourquoi ça. Il m'a répondu maintenant que j'ai été très mal excisée, qu'on a levé toutes les petites lèvres et le clitoris. Et là, depuis ça, maintenant, je suis dessus, je ne veux que penser, je me demande quoi faire, quoi. Donc, c'est ça mon problème.
Donc vous voudriez savoir quoi faire pour ne plus avoir mal et pouvoir éprouver du plaisir, c'est ça?
Oui, oui.
Le docteur Abramovitch va vous répondre.
Mmh. Bonjour Salé Matou. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des excisions qui soient bien faites, malheureusement. Sachez que beaucoup de femmes souffrent de leur excision, en effet, et notamment pendant les rapports, puisque du coup, il y a beaucoup de tissus cicatriciels, et ce tissu cicatriciel, c'est des tissus douloureux. Donc, vous avez mal du fait de ces tissus douloureux. Il y a différentes solutions. La solution la plus efficace, c'est de rejoindre une unité de prise en charge et de bénéficier d'une prise en charge psychologique, au niveau médical et au niveau chirurgical, si vous le souhaitez, pour permettre au moins d'enlever ces tissus douloureux et de éventuellement refaire un clitoris si c'est possible, mais au moins d'enlever les tissus abîmés.
Vous avez consulté ensuite pour cela, Salé Matou?
Non, je n'ai pas reconsulté d'abord, mais je veux consulter deux autres médecins pour voir ce qu'ils vont dire.
Merci Salématou de nous avoir appelé de Conakry. On va prendre Fatima en ligne. Fatima, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez de Dakar au Sénégal. On vous écoute, Fatima.
Au fait, je suis guinéenne. J'ai été excisée dans mon village quand j'avais entre 12 et 13 ans par ma mère contre sa volonté sous l'influence de ma tante. Ce jour, j'ai ressenti des douleurs atroces et des saignements constants pendant la cérémonie et plusieurs mois après. Je ne voulais pas être excisée car la coutume exige 3 semaines après l'excision. On amène les filles au marigot pour les purifier et à cette occasion, toutes les filles exigées du village seront présentes. Alors pour moi, hors de question d'être nue devant toutes ces filles, le jour J, je me suis levée à 5 heures du matin pour aller dans la brousse où j'ai passé toute la journée. Cela m'a causé d'énormes souffrances physiques et morales, notamment les règles douloureuses, des troubles mentaux et actuellement concernant ma vie sexuelle. Non seulement ils m'ont privé du plaisir sexuel, mais aussi le plus important pour moi, je risque de ne jamais devenir mère si je ne fais pas l'opération qui consiste à la réparation du clitoris. Et mes parents ne peuvent pas m'aider.
Alors, quelle est votre question, Fatima, la question que vous avez envie de poser au docteur Abramovitch?
Aujourd'hui, la question que je voudrais poser, c'est comment se fait l'opération de réparation? Parce que depuis 2011, je suis suivie par un gynécologue à la clinique de la Madeleine, ici à Dakar. Et il certifie qu'il est urgent d'organiser une opération génitale pour excision et infibulation que j'ai subi en période prépubertaire, laissant un orifice de 5 mm qui permet juste l'évacuation des règles. Mais j'ai fait un constat en allant à l'hôpital de Grayoff, la manière dont on ouvre. C'est pas comme cela que j'avais entendu quand le docteur Foldez avait intervenu dans Priorité Santé il y a quelques années. Donc je voudrais savoir comment se passe l'opération.
Bonjour Fatima, je vais vous répondre. Alors l'opération, dans votre cas, où visiblement les petites lèvres se sont collées et donc c'est fermé, elle se passe en deux temps. C'est une opération qui de toute façon dure pas très longtemps. Le premier temps consiste à ouvrir en fait les petites lèvres qui se sont accolées et à les suturer chacune de leur côté pour que les règles, pour que les urines s'écoulent normalement. Le deuxième temps, ça c'est en fonction de ce que vous souhaitez, consiste à nettoyer et à les ressortir la partie du clitoris qui est enfoui, parce qu'en fait le clitoris il mesure entre 7 et 10 cm et il y a toute une partie qui est enfouie et qui n'a pas pu être coupée par l'exciseuse. Et donc quand on répare les femmes, on nettoie cette cicatrice qui est douloureuse et on va chercher la partie qui est derrière et on la remet à la bonne place, ce qui permet de récupérer en partie du plaisir et ce qui permet d'avoir moins de souffrance du fait de la réparation.
Merci Fatima de nous avoir appelé de Dakar. J'espère qu'on a répondu.
J'ai autre chose.
Vous avez une autre question. Allez-y, on vous écoute.
Oui, parce que je voudrais intégrer une association qui lutte contre cette pratique, mais pour faire des formations. Parce que mon combat, c'est pour lutter contre cette excision. Je ne veux pas que les autres filles
Vous ne voulez pas que les petites filles vivent la même chose que vous, que ce que vous avez traversé comme épreuve.
Les petites filles vivent comme ce que j'ai vécu, donc ce sera mon combat pour le reste de ma vie. Donc je voudrais avoir une association pour faire la formation, pour pouvoir sensibiliser les communautés pour qu'elles arrêtent l'excision.
Bon, je peux pas répondre immédiatement à votre question.
C'est très courageux de votre part, en tout cas, de faire ça. On a entendu au début de l'émission la jeune Ba qui a monté une association. Vous pouvez peut-être vous rapprocher d'elle pour commencer.
Oui, le club des jeunes filles leaders de Guinée. Mais Fatima vit à Dakar, apparemment.
Au Sénégal.
Peut-être que, Fatima, que vous pouvez demander aux médecins qui vous suivent, justement, s'ils connaissent des associations des femmes qui militent contre l'excision. Peut-être que vous pouvez leur poser la question à eux, à Dakar.
D'accord, je veux le faire. Et je vais aussi commencer à faire la musique parce que je voudrais aussi chanter. Comme on dit que la musique n'a pas de frontières, je voudrais chanter pour sensibiliser les communautés.
Ben c'est un beau message. Merci beaucoup, Fatima, pour votre appel. Je salue le docteur Bernard Marc qui nous a rejoint dans ce studio.
Merci beaucoup.
Bonjour.
Bonjour.
Après quelques petits problèmes d'embouteillage. On va prendre un autre auditeur au standard. Amadou, bonjour.
Bonjour, madame.
Ah, vous nous appelez de Bamako, au Mali. Vous avez 4 filles, elles sont excisées, votre femme aussi. Et vous ne voyez pas où est le problème avec l'excision. Expliquez-nous.
Oui, mais je ne comprends pas cette histoire d'excision. Nous, on a vécu depuis combien de temps, toutes les femmes en Afrique, et particulièrement au Mali, faisaient 10, 15, 20 enfants. Il n'y a jamais eu de problème d'accouchement. Elles étaient toutes excisées. Et maintenant, vous amenez des médecins qui disent qu'il y a des problèmes d'accouchement quand une femme est excisée. Mais c'est complètement faux. C'est maintenant qu'on nous dit de mettre nos femmes pour faire en sorte qu'elles n'aient plus d'enfants. Les femmes avaient 20, 15, 20 enfants par enfant.
Docteur Marc, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Amadou ?
Bien, c'est évident que là, on est devant une mutilation, c'est-à-dire que c'est un acte international. On va s'occuper à la fois de ce qui est le corps de l'enfant, le corps de la femme, et cette défense-là est une défense à laquelle de nombreux pays africains ont réfléchi et ont posé des conditions légales. Les complications, ma consœur les a expliquées largement, mais c'est aussi une mutilation, c'est un droit qui est arrogé sur un corps qui n'est pas le sien, et c'est véritablement un véritable progrès que défendre et d'éviter ces mutilations sexuelles, quel que soit le type.
Qu'est-ce qu'on pourrait...
Pour compléter, alors peut-être que vous ne voyez pas les complications, monsieur, mais on sait pertinemment que les femmes excisées qui accouchent ont plus de fibroses et notamment ont plus de fistules et de problèmes urinaires après les accouchements que les autres. Et l'incontinence urinaire des femmes africaines qui ont eu beaucoup d'enfants qui sont excisées est connue et reconnue.
Merci Amadou de nous avoir appelé de Bamako au Mali. Docteur Marc, qu'est-ce que vous répondez aux hommes qui comparent excision et circoncision en affirmant qu'ils ne voient pas où est le problème ?
Bien, on en voit quand même les conséquences qui sont tout à fait différentes, avec des vraies conséquences dans la vie génitale, dans la vie obstétricale, des complications et un déni de la personnalité de la femme. C'est aussi quelque chose qui n'est pas rituel et consenti, mais véritablement imposé. Et on le voit de plus en plus. C'est tout l'intérêt qu'il y a maintenant pour les examens médico-légaux qui ont été institués pour les jeunes filles qui demande, dont la mère demande l'asile pour les protéger et qui sont vus à temps régulier puisque, on en a parlé tout à l'heure, il y a ce départ qui est une possibilité avec des jeunes filles qui sont abusées où on pense qu'elles vont retourner voir la famille et on se retrouve devant une excision d'autant plus grave, mais là je pense que ma consoeur appuiera, que ces excisions arrivent chez des jeunes filles, presque des jeunes femmes, avec des complications qu'on sait beaucoup plus importantes.
Docteur Abramovitch, à partir de quel âge on commence à exciser les petites filles ?
On excise à tout âge. On excise au Mali beaucoup les bébés dans les 7 premiers jours de vie. Il y a beaucoup de petites filles qui meurent d'excision, sauf qu'on ne le sait pas. Moi, mes patientes ont toutes au moins une sœur ou une cousine décédée d'excision. Hein. C'est voilà. Mais c'est pas référencé du tout. Après, il y a des ethnies pour qui c'est un rituel, un passage à l'âge adulte. Et dans ces cas-là, ça se fait un peu plus tard, vers 10-11 ans, pour le passage.
On a une idée du nombre de femmes qui meurent chaque année dans le monde des suites de l'excision ?
On n'a aucune idée parce qu'il n'y a pas de registre comme ça. Il y en a au moins 1 à 2 sur 10, mais on ne peut pas avoir de chiffres précis.
Docteur Marc, il faut peut-être rappeler que l'excision, d'un point de vue juridique, viole un nombre considérable de droits fondamentaux.
Absolument. Déjà,
à commencer par les droits de l'enfant.
commencer par la Convention internationale des droits de l'enfant, mais c'est aussi quelque chose qui est parfaitement référencé dans un espèce de traité qu'a fait l'ONU, qui est le traité sur le qui s'appelle le protocole d'Istanbul sur les tortures, mutilations qui peuvent arriver, et qui est un de nos outils lorsqu'on va avoir à faire ce diagnostic médico-légal de protection et en même temps d'affirmation chez la mère qu'elle a été victime de ces mutilations. Donc véritablement, ce sont des droits qui sont niés, et des droits, rappelons-le, qui sont consignés dans bon nombre de conventions de pays africains eux-mêmes, de droits pénaux des différents pays, et dont le progrès de ces pays est de les appliquer, et ça les honore, puisqu'il y a cette véritable prise de conscience, il y a simplement une mise en place qui est longue et difficile.
Un petit mot sur la France. L'excision est punie par la loi, c'est un crime. Qu'est-ce que l'on risque si l'on fait exciser son enfant ou si l'on pratique l'excision ?
Ben c'est une mutilation sexuelle, donc il y a un risque de procédure criminelle. Non seulement si on le fait en France, c'est quelque chose qu'on observait lorsque j'étais encore en Seine-Saint-Denis aux urgences médico-judiciaires, on voyait ça, mais dans les années 90. Et puis il y a eu beaucoup de jeunes filles qui ont été amenées vers les pays d'origine pour que la mutilation soit faite, eh bien la loi a repris ça, et le fait d'amener quelqu'un hors territoire national, même s'il est encore étranger sur le territoire français, peut être puni, et les parents peuvent être poursuivis, et de procédure criminelle.
Et donc prison et amende, forte amende.
Absolument.
Je reviens aux questions de nos auditeurs. Daouda sur Facebook nous écrit de Côte d'Ivoire. On dit qu'une fille qui a subi une mutilation sexuelle ne peut pas avoir d'orgasme. Ma copine a subi une mutilation sexuelle et elle ne ressent rien pendant nos rapports. Que dois-je faire pour lui donner du plaisir ?
Merci à vous déjà de vous occuper du plaisir féminin. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que évidemment que c'est plus difficile d'avoir du plaisir sans clitoris qu'avec un clitoris. Malheureusement, il n'y a pas que le clitoris qui joue, sinon ce serait trop simple. Il y a aussi beaucoup de choses dans la tête, beaucoup de choses qui jouent dans le plaisir. Et n'oublions pas aussi que certaines femmes excisées peuvent avoir du plaisir. Le clitoris, comme je le disais tout à l'heure, fait 10 cm, il longe le vagin, et du coup, on peut arriver à avoir du plaisir, mais c'est sûr que c'est plus dur sur des tissus abîmés, et c'est plus dur aussi sur des tissus douloureux.
Donc il faut beaucoup de compréhension, beaucoup de patience.
Il faut beaucoup de volonté, beaucoup
de douceur,
oui,
beaucoup d'amour.
Voilà.
On va prendre Viviane au standard. Bonjour Viviane.
Bonjour Caroline, bonjour.
Non, c'est Chantal, mais c'est pas grave. Donc vous nous appelez de Lomé au Togo et vous êtes tchadienne. On vous donne la parole, on vous écoute. Viviane ?
Non, Viviane, je suis étudiante tchadienne à Lomé. Alors, je vais te donner justement un témoignage. J'avais 17 ans quand mon papa et quelques tantes voulaient m'amener à l'excision. Et sachant pertinemment que l'excision est une mauvaise chose parce que je suis chrétienne et j'appartiens également à une association du nom APLFT. Donc, j'ai eu à exposer sur ces thèmes-là. Je connais par cœur les conséquences de cette pratique. Alors quand ils se sont approchés pour m'en parler, donner leur argument comme quoi je serais injuriée, je serais discriminée, je n'aurais pas de mari, je n'aurais pas d'enfant, j'ai également donné mes raisons qui n'ont pas été prises en compte, bien entendu. Et donc, papa a rassuré les femmes. Je me suis opposée de façon violente, ça je le dis. Donc papa était obligé de rassurer les tantes de rentrer chez elles. Et comme l'excision devait se passer le lendemain à 4 heures, qui va m'amener quoi qu'il en soit la nuit, et qu'à 4 heures, on va m'exciser. Et donc, les tantes étaient rentrées chez elles. Et moi, je guettais papa. Comme on était deux à la maison, il y avait également une tante, mais elle dormait déjà en tout temps. Donc, j'ai joué sur sa vigilance. Et donc, j'ai pu m'échapper entre 23 heures. Donc, je suis allée me réfugier chez les prêtres et ensuite, on m'a envoyée à l'internat. Et j'avoue que ça n'a pas été facile. J'ai été abandonnée par tout le monde, ma famille notamment. J'ai été isolée parce qu'on avait peur que le papa puisse me chercher, envoyer des gens me chercher. Donc, j'ai été isolée. J'ai été
Oh, la ligne se détériore. Viviane, avec vous, hein, qui nous appelait de Lomé. En fait, vous vouliez savoir s'il y avait des passages dans la Bible et dans le Coran qui autorisent l'excision. La réponse est non, docteur
Abramovitch. Non, il n'y en a pas du tout. Il y a un hadith qui dit que tu feras saigner sans abîmer, et c'est tout. Il n'y a rien dans le Coran, rien dans la Bible, rien dans aucun texte sacré qui justifie l'excision.
Merci, Viviane, hein, de nous avoir appelé de Lomé au Togo. On va prendre Awa qui nous appelle de région parisienne. Bonjour Awa.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Alors en fait, moi j'appelais parce que je suis née en France et à l'âge de 12 ans, je suis retournée au pays d'origine qui est le Sénégal et je suis rentrée vers l'âge de 6 ans. Donc en fait, j'ai une éducation occidentale, j'ai grandi en région parisienne et il y a 6 ans maintenant, j'ai eu mon premier enfant. Et on branche le monitoring au moment de l'accouchement que la sage-femme me dit « mais vous avez été excisée ». Et j'étais totalement surprise parce que personne ne m'en avait jamais parlé. D'ici là, j'avais rencontré plusieurs gynécologues et personne n'avait pris la peine d'aborder ce sujet-là avec moi. Et j'étais totalement désorientée parce que j'étais vraiment contre ce genre de pratique. Et je suis retournée voir ma gynécologue qui m'a suivie dès les débuts et je lui ai dit « mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Pourquoi vous n'avez jamais abordé ce sujet ?» Et elle disait que les rares fois où elle a abordé ce sujet-là, les femmes l'ont mal prise, les maris sont venus en étant violents, en étant agressifs, « pourquoi vous l'avez dit à ma femme ?» Donc maintenant elle s'était. Et je lui ai dit « ah ben non, moi j'aurais voulu savoir, j'aurais voulu qu'on me dise. » Mais ça m'a beaucoup perturbée. J'en ai discuté avec une amie qui, elle aussi, l'avait été, alors que jusque-là, elle n'avait pas osé en parler. Mais jusqu'à présent, j'en ai pas parlé à mes parents, ni même pas à ma mère, j'ai rien dit.
Merci Awa pour ce témoignage. Docteur Abramovitch.
C'est regrettable un peu ce que vous a dit la gynécologue. Moi, à chaque fois que je suis face à une patiente excisée, je lui demande si elle le sait et si elle le sait, si ça la gêne. Je n'ai jamais, jamais de patiente qui a mal pris. Bien au contraire, les femmes sont plutôt contentes qu'on leur en parle et qu'on soit pas dans le déni de vous êtes pas comme on a l'habitude. Alors on n'en parle pas, on évite le sujet. Bien au contraire, c'est une ouverture. Il faudrait que tous les gynécologues en parlent à leurs patientes.
Est-ce que ça arrive souvent que les femmes ignorent qu'elles ont été excisées?
Ça arrive un peu, oui.
Elles enfouissent le traumatisme?
Pas forcément, c'est-à-dire quand elles ont été excisées tout bébé et qu'elles n'en ont pas de souvenir et que la discussion n'est jamais revenue. C'est souvent à l'accouchement, c'est souvent en voyant leur petite fille, c'est souvent au lycée, dans les cours. Il faut quand même dire que le clitoris est le grand absent des livres de bio jusqu'à l'année dernière et que c'est un sujet tabou et que personne ne parle du clitoris. Donc du coup, pour se rendre compte qu'on est anatomiquement différente des femmes non excisées, il faut aller un peu le chercher. Ça peut arriver que les femmes ne soient pas au courant.
Merci beaucoup, Awa, de nous avoir appelé pour partager ce témoignage. On va retrouver maintenant le docteur Rada Hatem. Bonjour, docteur.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue obstétricienne, médecin-chef à la Maison des Femmes de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, près de Paris. Alors, la Maison des Femmes de Saint-Denis fait partie du collectif Prévenir et Protéger, qui regroupe 14 associations. Comment vous êtes-vous mobilisée pour cette journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations sexuelles féminines?
C'est une journée pour laquelle on a toujours l'habitude de faire quelque chose. Et là, cette idée est née de ma rencontre avec M. Gallet, qui est le président d'Enfants Présents, et on s'était dit, on a envie de faire quelque chose ensemble, on est tous les deux mobilisés sur des sujets de santé publique et de prévention, nous les femmes, lui les enfants, et on s'est dit, mais finalement, le 6 février, ça concerne les enfants, ce sont des enfants qui sont excisés jusqu'à nouvel ordre la plupart du temps. Et donc on s'est dit, on va se réunir nos forces, nos réseaux, nos intelligences, et on a proposé à toutes les associations qui avaient envie de faire quelque chose ce jour-là, de nous réunir, et on a trouvé cette bannière qu'on aime beaucoup, Prévenir et Protéger, qui dit bien tout ce qu'on a envie de faire.
Pourquoi la France est-elle concernée par la lutte contre l'excision? Combien de filles ou de femmes excisées vivent dans l'Hexagone?
Alors on estime à la très grosse louche ce chiffre à 55 à 60 000, et la France est concernée d'abord par ces femmes, mais surtout par leurs filles, parce que justement l'idée de prévenir et protéger, c'est que le combat, c'est la génération d'après. C'est très bien de prendre en charge les femmes excisées, c'est très bien de leur offrir des parcours de soins, voire une prise en charge chirurgicale, mais le Saint Graal, ce serait quand même que ça s'arrête et que leurs filles ne soient pas excisées. Donc en France, il faut qu'on ait une démarche de prévention dans les lycées, les collèges, que les instituteurs, les enseignants, les infirmières scolaires, que tout le monde soit informé, parce qu'il faut pouvoir dire à une petite fille qui rentre au pays voir ses grands-parents, sois vigilante, tu viens d'une région où peut-être on excise, renseigne-toi, fais attention, ne va pas à n'importe quelle fête, il y a peut-être un risque. C'est là où la France doit maintenir son rôle préventif.
Oui, parce qu'on dit que 3 adolescentes sur 10 qui résident en France risquent l'excision quand elles sont en vacances dans le pays d'origine de leurs parents. C'est docteur Marc, vous vouliez intervenir sur ce point.
Oui, je 3 crois sur que 10, 3 sur 10 de pays à risque, hein, pas 3 sur 10 général.
Oui, 3, oui, 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 dont les parents viennent de pays où l'on pratique l'excision. Oui, oui, bien sûr. Docteur Marc.
Oui, je crois que c'est extrêmement important d'informer et c'est tout l'intérêt que cette information soit la plus large possible auprès des gynécologues, mais aussi maintenant auprès des médecins légistes, puisque les textes de novembre 2017 ont donné le fait que ces constats doivent être faits dans des unités médico-judiciaires. C'est extrêmement important que largement on fasse entrer ces mutilations sexuelles, ces mutilations génitales dans l'enseignement de la médecine légale et dans le travail qu'on doit faire. C'est pas pour rien que la Société de médecine légale s'est penchée avec son journal sur cette thématique et ce type de violences faites aux femmes, parce qu'elles sont extrêmement importantes. Tout le monde doit le connaître, en commençant par les professionnels de santé qui doivent être sensibilisés, qui doivent apporter la meilleure information à leurs patients.
Docteur Rada Hatem, quand vous faites de la sensibilisation, notamment vers ces adolescentes dont les parents sont originaires de pays à risque, est-ce que vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux, Internet ?
Nous, non, mais Excision Parlons-en, qui est la plateforme qui porte notamment cette campagne de prévention qui s'appelle Alerte Excision, elle a un chat et utilise beaucoup les réseaux. Nous, on intervient dans les lycées et collèges de Seine-Saint-Denis. C'est pour nous l'occasion justement de rencontrer des adolescents et de leur parler de ce sujet. Donc c'est plus comme ça qu'on fait de la prévention. Et quand on reçoit aussi des classes à la Maison des Femmes qui viennent voir de quoi on s'occupe. Et c'est aussi pour nous l'occasion de leur en parler. Je voudrais apporter un complément d'information parce que M. Marc a dit que c'était les UMJ qui devaient s'occuper de ces constats. C'est pour les mineurs, hein, parce que les médecins gynécologues et généralistes éventuellement bien informés peuvent faire des certificats pour les femmes adultes. Donc tout le monde n'est pas obligé d'aller dans une UMJ pour avoir son certificat. Attention.
Je rejoins Rada, les unités spécialisées comme celle de Rada ou la mienne à Montreuil, on fait également les certificats et il n'y a pas de souci. Mais ce sera en effet bien que les UMJ soient toutes au point là-dessus.
Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Docteur Rada Hatem, gynécologue obstétricienne, médecin-chef à la Maison des Femmes de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, près de Paris. Docteur Sarah Abramovic, chirurgienne à la maternité André Grégoire à Montreuil en région parisienne, spécialiste en chirurgie réparatrice de l'excision, et docteur Bernard Marc, médecin légiste, responsable de l'unité médico-judiciaire du centre hospitalier de Marne-la-Vallée. Merci à tous. Priorité santé touche à sa fin. Merci à Assetou Samaké et Juliette Brault qui m'ont aidé à préparer l'émission et à Didier Bleu qui l'a réalisé avec Laurent Hérault au standard pour les appels.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les heureux retraités, assurez dès maintenant vos vieux jours avec l'assurance retraite. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.